Bondy Bloc Café.
Bondy Bloc Centre.
Bondy Bloc Café. Bondy Bloc Café. www.bondybloc100.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Bondy Bloc, dans votre Bondy Bloc Centre Val-de-Loire Café. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 février, nous sommes au café Le Lutetia à Orléans et nous accueillons Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret. Bonjour monsieur Sueur.
Bonjour.
Cette émission se fera avec Enoch Bocambois, Thomas Deray, journaliste à la République du Centre, Hassan Kerim, journaliste, Shadrach Ilanga, membre de For You, et également Camille Dehès. Bonjour à toutes et à tous. Les sujets ne manqueront pas pour interroger notre invité dont le CV est plutôt chargé. Je vais tenter d'en faire une synthèse non exhaustive. Monsieur Sueur, vous avez été maire d'Orléans, député, secrétaire d'État, et aujourd'hui vous êtes sénateur. Voilà pour votre carrière politique que vous avez menée en tant que membre du Parti Socialiste. D'un point de vue professionnel, vous avez été professeur de lettres, maître de conférences et chercheur dans le domaine de la linguistique. Car en plus d'être un homme politique, vous êtes un homme de lettres, auteur de nombreux ouvrages sur la linguistique, sur Charles Péguy et sur la ville. Vous venez récemment de publier un livre, Victor Hugo au Sénat. Politique, linguistique, urbanisme, actualité, je le disais en introduction, les sujets ne manqueront pas. Et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Au cours de cette émission, nous reviendrons sur votre fonction de sénateur et plus précisément sur le rôle joué par la deuxième chambre du Parlement dans le bon fonctionnement de notre République. Vous êtes actuellement co-rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla et nous ne pouvions faire l'impasse sur ce sujet. La première question sera pour Hassan Kerim.
Jean-Pierre Sueur, les auditions menées par la commission d'enquête du Sénat, dont vous êtes co-rapporteur, sont assez unanimement saluées. Cette commission d'enquête est une émanation de la commission des lois du Sénat. Pour démarrer cette émission, nous allons vous demander de faire acte de pédagogie et de nous expliquer en quelques mots le rôle de cette commission des lois du Sénat.
La commission d'enquête ou la commission des lois ou les deux ?
Faisons la commission d'enquête. Parce que
la commission d'enquête. Donc la commission des lois a été dotée par le Sénat des prérogatives d'une commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que c'est qu'une commission d'enquête parlementaire ? C'est prévu par l'article 51, alinéa 2 de la Constitution, qui dit que il revient au Parlement, par les commissions d'enquête, de contrôler le gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. En l'espèce, il s'est passé un certain nombre de phénomènes plutôt graves. De dysfonctionnements lourds, très lourds même, et nous avons considéré qu'il fallait faire une commission d'enquête, comme nous l'avons fait sur beaucoup de sujets. Souvenez-vous la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le scandale du procès d'Outreau. Il y a une commission d'enquête récemment sur Lactalis. Donc chaque fois qu'il y a un gros problème dans la société, il est normal qu'une commission d'enquête puisse exercer en toute indépendance sa mission de contrôle. Sur l'affaire Benalla, une commission d'enquête a démarré à l'Assemblée. Elle a explosé en vol. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de conflits politiques et sans doute un manque d'indépendance de la commission des lois de l'Assemblée à l'égard du pouvoir exécutif et de la présidence de la République. Nous faisons notre travail en totale indépendance. Nous avons décidé de convoquer et donc de recevoir toutes les personnes que nous avons souhaité entendre. Nous pouvons entendre absolument n'importe qui, sauf une personne. Laquelle ? Le président de la République, qui a pourtant dit, lors d'une manifestation, c'est moi, je suis responsable, venez me chercher. Il y a une personne qui ne peut pas être convoqué devant une commission d'enquête parlementaire, c'est le président de la République. Donc nous ne l'avons pas invité à s'exprimer. En revanche, nous avons entendu M. Benalla deux fois, M. Kras deux fois, et le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet, le chef de cabinet. Étant co-rapporteur, j'étais chargé, avec ma collègue Muriel Jourda, de poser les questions. Et je dois dire que nous avons fait le travail avec sérénité, sérieux, objectivité. Je ne poursuis pas, et nous ne poursuivons pas, un objectif politique. Muriel Jourda, ma co-rapporteur, et Philippe Bas, le président, et moi, nous sommes dans des groupes politiques différents. Néanmoins, nous sommes unis pour une seule chose, trouver la vérité, puisque on ne peut pas mentir à une commission d'enquête parlementaire, puisqu'on prête serment. Et si on a fait un faux témoignage, un mensonge, la justice peut être saisie par nous, par le Sénat, par exemple, et les sanctions peuvent être de 5 années de détention et de 75 000 euros d'amende. Donc je dis ça pour vous dire que c'est très sérieux. Et je peux simplement vous dire que le fonctionnement pour le moins problématique de M. Benalla dans différents domaines, nous sommes chargés de travailler sur la sécurité et la sécurité du chef de l'État et des hautes personnalités. Ce fonctionnement curieux, étrange, problématique, grave, a suscité toute une série de dysfonctionnements. Parce que, sans doute, beaucoup de gens considéraient qu'il était doté d'une autorité particulière en tant que proche du chef de l'État. Si bien qu'on a trouvé des dysfonctionnements à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police de Paris. On a trouvé des dysfonctionnements dans les ambassades, au Quai d'Orsay. Tout cela, nous avons cherché à l'établir le plus possible et nous rendrons notre rapport dans des délais qui maintenant ne vont plus durer trop longtemps, je crois. Nous rendrons notre rapport et à ce moment-là, nous dirons ce qui nous semble être la vérité sur ces dysfonctionnements, les conclusions que nous en tirerons et les propositions que nous ferons pour que cela ne se renouvelle pas. Autrement dit, une commission d'enquête parlementaire, voyez-vous, cher Thomas, une commission d'enquête parlementaire, c'est extrêmement important pour une démocratie. S'il n'y a pas un contrôle de l'exécutif par le législatif, il manque quelque chose à la démocratie.
Monsieur Sueur, moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure à propos du chef de l'État qui ne pouvait pas être convoqué par la commission d'enquête parlementaire. Pensez-vous que c'est une faiblesse de la Ve République, cette présidentialisation peut-être à outrance, diront certains. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas bon ou plus judicieux peut-être de, je ne sais pas, revenir à un régime peut-être plus parlementaire? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est un petit peu au-dessus de tout?
Alors, je vais répondre deux choses. Premièrement, je suis un adepte de la séparation des pouvoirs. Nous sommes dans le pays de Montesquieu. Et il me paraît tout à fait souhaitable, au nom de la séparation des pouvoirs, par exemple, que le président de la République ne soit pas l'objet de l'enquête parlementaire, puisqu'il est élu par l'ensemble des Français, représente au plus haut point le pouvoir exécutif. Donc il y a, c'est pour la même raison que le président de la République ne peut pas s'exprimer ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale. Il y a la séparation des pouvoirs. Première réponse. Deuxièmement, il est certain que s'il y a une réforme de la Constitution, il faut rééquilibrer les pouvoirs au sein de notre République. Et il est clair que la Ve République donne un pouvoir prééminent à l'exécutif au détriment du pouvoir législatif. Il faut absolument changer cela. Nous sommes dans un trop grand déséquilibre. Et ce déséquilibre est d'ailleurs accentué. Aujourd'hui même, tiens, dans une interview qu'a faite Jean-Pierre Chevènement, je suis entièrement d'accord avec lui, par le fait que l'élection législative a lieu juste après la présidentielle. Hier, j'étais avec le Premier ministre de la Tunisie, où on a parlé institutions. Il va y avoir des élections en Tunisie. Il y aura d'abord les législatives, puis les présidentielles. J'aurais dit, c'est bien. Lionel Jospin, avait interverti, de manière à ce que les législatives soient après les présidentielles. Voyez ce qui se passe. Vous avez Emmanuel Macron qui est élu. Très bien. C'est le choix de la population. Ça a été aussi un refus d'une majorité des Français de voir le Front National exercer la plus haute fonction dans notre pays. Bien. Peu après, quelques semaines après, enfin même pas un mois après, il y a les législatives. Je parle à mes sœurs. J'ai deux sœurs. Je leur dis « Alors pour qui tu vas voter aux législatives ?» Elle me dit « J'ai voté Macron. » Et mon autre sœur aussi. Mais je dis « Mais vous n'allez pas voter Macron, mes chères sœurs, puisqu'il est élu. »« Ah oui, mais on va voter pour celui qui aura la pancarte Macron. » Ça veut dire que ça produit une assemblée qui, bien entendu, va soutenir le président. Mais on a connu ça, ne soyons pas hypocrites, depuis longtemps. On a eu avec la droite des majorités de droite. On a eu avec François Mitterrand une majorité socialiste très forte, etc., avec Lionel Jospin aussi quand il était Premier ministre. Donc il y a un phénomène...
qui casse un petit peu ça quand voilà. Même, parce qu'avec le septennat, il y a quand même moyen.
Oui, avec le septennat, il n'y avait pas concordance. Là, il y a concordance. Et je trouve qu'il faut revenir là-dessus absolument. Voyez-vous, j'ai beaucoup de respect pour les députés de En Marche. D'ailleurs, je connais les députés de En Marche de notre département et je travaille avec elle ou avec eux, parce qu'il y en a deux en marche et un du Modem. Je travaille dans de bons... J'ai vraiment de bonnes relations. Mais si vous voulez, ce que je constate en tant que sénateur, c'est... Je prends la loi justice. Qu'est-ce que vous voulez ? Cette loi, elle préoccupe les magistrats, leurs représentants, les avocats, les greffiers, les personnels, les fonctionnaires, tout le monde. Bon, on a réorganisé au Sénat une table ronde avec tous les représentants des personnels. Et Madame la ministre, garde des Sceaux, que je connais bien, Nicole Belloubet, elle est restée inflexible. Elle n'a pas bougé. Autrement dit, on est dans un système où la majorité de l'Assemblée soutient tellement le président qu'il n'y a pas cette indépendance que je trouve absolument souhaitable pour le pouvoir législatif. Pour prendre un exemple très simple, vous connaissez, aux États-Unis, le président de la République a beaucoup plus de difficultés à faire voter son budget que le président de la République française, parce que le Parlement a davantage de prérogatives et d'indépendance. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on revienne. Il ne s'agit pas de créer une cohabitation permanente. Mais cohabitation pour cohabitation, je préférais une cohabitation entre un président et une majorité parlementaire qu'entre un président et un Premier ministre, parce que ça, c'est pas très rationnel. Mais si vous voulez, je comprends très bien qu'il y ait des solidarités, qu'on puisse avoir un parti dominant, un groupe qui soutienne le président. Mais il faut davantage d'indépendance de la part du Parlement à l'égard du pouvoir exécutif, d'ailleurs dans l'intérêt même du pouvoir exécutif.
Merci, Monsieur Sueur. On va poursuivre avec Enoch, qui a une question. Alors, de quel ordre sera-t-elle, Enoch ?
Sur le fonctionnement du Sénat, déjà, d'une. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que, en tant que citoyen français, quel impact a le Sénat sur, vis-à-vis de moi ? Parce que aujourd'hui, je ne comprends pas. Moi, pour moi, le Sénat, c'est... C'est Jules César, les coups de poignard dans le dos, tout ça. Et jusqu'à l'affaire Benalla, pour moi, le Sénat, c'était vraiment de l'histoire. Donc concrètement, aujourd'hui, pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose ou moins la politique et l'organisation de l'État en lui-même, réexpliquer un petit peu son fonctionnement et son but.
Bon. Il faut, dans un pays, représenter les citoyens. Un des grands problèmes qui se pose aujourd'hui avec les gilets jaunes, avec qui je discute, d'ailleurs, quand je les rencontre, j'arrête ma voiture et je discute. Bon, c'est que ils ont beaucoup de mal à assimiler la notion de représentation. Et ce serait bien, moi j'aimerais bien, que les gilets jaunes désignent une ou deux personnes par département, qu'il y ait une assemblée, qu'il y ait un bureau, et qu'ils décident d'un certain nombre de questions, d'un programme, et puis qu'ils aient des représentants pour porter ça. Mais si vous dites ça, vous faites quoi ? Vous faites de la politique. Or, il y a une sorte d'a priori anti-élu, anti-politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vous me direz qu'on est loin du Sénat. Mais non. Parce qu'il est important que les citoyens soient représentés. Ils sont représentés par le président, puisqu'ils l'élisent. Mais qu'il y ait aussi une assemblée représentative de l'ensemble des courants politiques, des opinions politiques, des partis politiques dans le pays. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui.
On est d'accord.
On est d'accord. Alors, donc, il y a l'Assemblée nationale. Mais dans toutes les démocraties, les grandes démocraties, ça vaut aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, enfin partout, au Japon, il y a deux assemblées. Pourquoi ? Parce que les deux assemblées... Moi, je ne défends pas le Sénat de manière corporatiste. Je défends qu'il y ait deux assemblées et qu'elles ne soient pas élues pareilles. Quand elles sont élues pareilles, qu'elles ont les mêmes pouvoirs, on a les grandes difficultés qu'a eues l'Italie. Donc nous, on a une assemblée qui est élue au suffrage universel direct, l'Assemblée nationale, et une assemblée qui est élue au suffrage universel indirect. On est élu par les représentants des communes, départements, régions, qui eux-mêmes sont élus par la nation, qui s'appelle le Sénat. Ce qui est important, c'est que toutes les lois qui sont votées doivent passer devant l'Assemblée, puis le Sénat, puis revenir devant l'Assemblée, puis retourner au Sénat. Puis on a une salle, une fois à l'Assemblée, une fois au Sénat, où on réunit 7 députés, 7 sénateurs pour qu'ils se mettent d'accord. Ça s'appelle commission mixte paritaire. Puis s'ils se mettent d'accord, c'est revoté dans les deux assemblées. S'ils ne se mettent pas d'accord, ça recommence. Assemblée, Sénat, Assemblée, etc. Et puis le gouvernement peut dire à l'Assemblée de statuer en dernière instance, de dire le dernier. Faire la loi, c'est très important. Vous comprenez ? Moi, je suis très fier, bon, je vais le dire, d'avoir fait voter... en dialoguant avec le gouvernement, un amendement sur la Cour pénale internationale qui est passé cette semaine au Sénat, qui va repasser à l'Assemblée, qui est le fruit d'une proposition de loi que j'avais faite en 2012, qui a été votée par le Sénat en 2013 à l'unanimité, pour châtier les criminels, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides quand leurs auteurs sont en France. Vous vous rendez compte ? C'est important. Bon, ben c'est. Alors, j'entre pas dans les détails, mais c'est important. Eh bien, cela a été adopté. Enfin, ce qui a été adopté, c'est des avancées sur ce sujet. Pas toutes les avancées que je souhaiterais. Bon, ben, c'est venu du Sénat. Et ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Dans les textes de loi qui sont votés, il y a plus d'amendements intégrés dans le texte qui viennent du Sénat que de l'Assemblée nationale. Et les deux assemblées concourent à l'écriture de la loi. Mais vous savez, quand vous faites une loi, moi j'y passe des jours et des nuits, tout mot de la loi va s'appliquer à tous les Français. Depuis Dunkerque jusqu'à Wallis et Futuna, et depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon, en passant par toutes les villes et tous les villages français. La loi, nul ne peut l'ignorer, elle s'applique à tout le monde. Alors, en fait, tout le monde l'ignore, parce qu'il y a des milliers de lois. Mais quand vous faites une loi sur les retraites, le lendemain, tout le monde vous téléphone, alors moi ? Quand vous faites une loi sur la sécurité sociale, et mon médicament, est-ce qu'il va être remboursé ? Autrement dit, les lois, toutes les lois, c'est toute la vie des gens. Vous comprenez ? On est là pour traiter... De toutes les lois sont traitées dans les mêmes, avec la même égalité de droits et de devoirs par l'Assemblée et le Sénat. C'est parce qu'on a deux assemblées parlementaires qu'il y a une navette, qu'il y a un va-et-vient. Vous comprenez, faire une loi, ça demande beaucoup de travail. Et si vous avez une seule lecture dans une assemblée, ça ne suffit pas du tout. Il faut que ça revienne, que ça reparte. Parce que nous, on regarde ce qu'a fait l'Assemblée. Ou si c'est dans l'ordre inverse, c'est l'Assemblée qui regarde ce qu'a fait le Sénat. Et on dit, bon, ça, ça va, ça va pas. On propose des modifications. Après, l'Assemblée va retravailler sur ce que nous, on aura fait. Et ainsi de suite. Et c'est par ce travail totalement démocratique qu'on arrive à faire les lois les meilleures possibles. Ou les moins mauvaises.
Alors, ce que j'aurais voulu savoir, c'est où est-ce que se situe, justement... Parce que tout à l'heure, vous parliez d'indépendance... enfin, que le Sénat était indépendant. Mais il me semble que vous avez une étiquette politique où vous êtes socialiste.
Enfin, de la famille. Je suis, mais je le revendique. Hein. Et, je ne le cache pas derrière comment, la porte.
Du coup, quand une loi arrive à votre table, vous êtes obligé de la traiter avec une étiquette socialiste.
Mais oui, mais alors ça, c'est le vieux monde, vous voyez. Et même ça n'a jamais existé.
On dit que le Sénat, c'est la bande des vieux sages aussi. Donc,
c'est quoi ?
La bande des vieux sages. C'est là où vous...
D'abord, c'est pas vrai parce que l'âge moyen est le même à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que y a beaucoup de départements où le Sénat, où il y a un vote proportionnel et non majoritaire. Ce qui fait qu'il y a aussi autant de femmes au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas avoir des visions caricaturales qui ne correspondent plus du tout à la réalité. Donc, la question que j'ai oubliée, la question que vous avez posée au début, c'était...
L'indépendance.
Oui. Alors, être dans un parti politique, vous savez que la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution ? Que les partis contribuent à l'expression du suffrage. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des partis politiques. Là où il n'y a pas de partis politiques, c'est dans les régimes totalitaires. Et vous comprenez, si les gilets jaunes veulent peser dans le débat politique, ils seront bien obligés de s'organiser, de présenter des gens, des candidats. Moi, je trouve que c'est leur droit, bien entendu. Mais il n'y a de démocratie que s'il y a des citoyens organisés dans des partis politiques. Tout le monde peut créer un parti politique et chacun peut... rejoindre le parti politique qu'il préfère. Alors maintenant, moi, je ne me suis jamais senti contraint par le Parti socialiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un parti où il y a beaucoup de tendances. Et un parti démocratique, c'est un parti où on peut dire ce qu'on pense, où on n'est pas... Vous savez, c'est pas... Moi, mon parti, c'est pas un parti stalinien. Mon groupe, c'est pas un groupe stalinien. On peut aussi voter autre chose que la pensée majoritaire du groupe parce que vous savez ce qu'il est écrit dans la Constitution ? Tout mandat impératif est nul. Un grand problème, je vais vous dire entre nous parce qu'on est entre nous, même si on est diffusé, c'est que on n'apprend pas aux élèves la Constitution. C'est très drôle. Moi, je reçois beaucoup de groupes au Sénat. Je reçois les écoles, les collèges, les lycées. Je reçois le Rotary Club. Je reçois des cadres supérieurs, des entreprises. Je reçois même quelquefois des journalistes, etc. Et il y a une très grande méconnaissance de la question « Comment on fait la loi ?» Et alors je leur dis « Mais est-ce que vous avez déjà lu la Constitution ?» Personne ne leur a appris la Constitution de la République française. Donc c'est bizarre. Alors, il écrit, vous savez, tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que chaque sénateur, chaque député a un droit imprescriptible de voter comme il l'entend, de déposer les amendements qu'il souhaite déposer. Et personne ne peut dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de déposer cet amendement. Donc, moi, je suis dans un parti où je suis libre. Je contribue, bien entendu, à la position du parti, de mon groupe parlementaire. Bien entendu, on vote souvent ensemble, mais on a le droit de ne pas voter comme le groupe. Ça arrive d'ailleurs assez souvent. Et c'est bien ainsi. Et au Sénat, ce qui est intéressant, j'ai été député, donc j'ai connu toutes les situations. J'ai été majoritaire à l'Assemblée nationale et minoritaire. Quand vous êtes majoritaire, on te dit « Ben oui, il faut soutenir le gouvernement parce que tu le soutiens, c'est un gouvernement qui est socialiste. » Comme là, on dit à nos amis REM, « T'as un gouvernement REM, donc bon, d'accord. » Mais enfin, on peut avoir aussi son indépendance. Vous savez, y compris quand Mitterrand a voulu réhabiliter les généraux félons de l'Algérie, ben des gens comme Pierre Joxe, qui était président du groupe parlementaire, s'y sont opposés. On a quand même... Bon, c'est la respiration de la démocratie. Donc être membre d'un parti politique, ce n'est pas du tout une contrainte. Heureusement qu'il y a des partis politiques. Ils contribuent à l'expression des différentes tendances. Mais attention, ce qui est important, c'est de faire des partis démocratiques. C'est-à-dire des partis... Il y a eu des partis plébiscitaires, des partis où il y a un chef et tout le monde suit. Pas très intéressant. C'est bien un parti où on peut débattre. Forger peu à peu une pensée majoritaire, mais sans qu'on soit complètement entravé par cela. Et alors, ce qui est intéressant au Sénat, qui n'a pas l'Assemblée, l'Assemblée est majorité, opposition, et qu'au Sénat, on parle. Vous comprenez, le Parlement, c'est un endroit où on parle. Moi, je parle dans la commission d'enquête parlementaire. Avec, j'ai un co-rapporteur, une co-rapporteure qui est LR et un président LR. Et moi, je suis socialiste. Heureusement qu'on parle. Mais sur tous les projets de loi, on parle ensemble. Par exemple, il y a ici une métropole. Dans le Loiret rural, vous avez des communautés de communes. Et il y a un problème qui ressort actuellement. C'est que vous avez des communes, des maires, des mairies, des habitants qui disent « Ouh là là, la communauté, elle est trop grande, elle est trop loin, on n'est plus représenté de la même façon qu'avant ». Et donc j'ai fait une proposition de loi pour mieux représenter les petites et moyennes communes au sein des intercommunalités. D'accord ? Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde. Eh bien, je vais vous dire qu'après avoir discuté avec tout le monde, ça a été voté au Sénat uniquement avec des voix pour et des abstentions. Il n'y a pas eu une voix contre. Pourquoi ? Parce qu'on travaille ensemble. Et c'est très riche, très important de travailler les uns avec les autres pour arriver quelquefois à des consensus, à des majorités qui sont au Sénat des majorités d'idées parce qu'on a travaillé. Donc le Sénat est très important, comme l'Assemblée est très importante, et il est très important qu'il y ait deux assemblées. C'est un des ressorts de la démocratie. Et c'est comme ça qu'on fabrique bien la loi. Sans ça, on la fabrique mal parce qu'il n'y a qu'une lecture.
Merci. Nous allons poursuivre avec une question de Shadrach Ilanga.
Alors, monsieur Sueur, déjà bonjour. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer.
Oui, mais cher Shadrach, et moi aussi.
j'avais une question, en fait. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer un peu le système politique et le système de la démocratie représentative à travers le Sénat et puis le Parlement. Ces derniers temps, il y a un taux d'abstention qui est en... perpétuellement, qui est en croissance, et puis que ce soit les élections présidentielles ou législatives, les gens s'y intéressent plus. Est-ce que vous, en tant que sénateur, comment vous le vivez, particulièrement les gens des quartiers populaires aussi, ne se sentent pas vraiment représentés ni concernés, bien qu'ils soient aussi citoyens français? Comment vous le vivez en tant que,
mais moi,
que sénateur?
Vous savez, je pense, cher Hassan, qu'il faudrait, il faut beaucoup plus d'instruction civique à l'école. Vous vous rendez compte, dans le monde où nous sommes, si on regarde ce qui s'est passé depuis un siècle, le nombre de gens qui se sont fait tuer, qui ont été martyrisés, torturés pour la liberté sur beaucoup de continents et dans beaucoup d'endroits, pour obtenir cette liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écrire ici. Vous voyez, à ce micro, je peux dire ce que je veux. Comme à France Bleu, comme à Radio Campus, comme dans la République du Centre. Si on m'interroge, ben je dis ce que je veux. On peut écrire et publier librement. Et on peut aussi voter, parce que finalement, qui voulons-nous comme président de la République, comme maire, comme député, comme conseiller départementaux, sénateurs, conseillers régionaux ? Chacun peut dire son point de vue. Et je trouve que c'est une grave erreur que de ne pas voter. Et je pense qu'on devrait, à l'école élémentaire, au collège, au lycée, insister sur le fait que c'est un droit. Et pour moi, voter est un devoir. Voilà. Et je pense qu'on doit revenir à des conceptions très, très fortes de la démocratie et de la République.
J'entends bien ce que vous dites. Maintenant, imaginons, vous réussissez à convaincre des personnes, particulièrement, moi, je vais appuyer sur les personnes issues de quartier. Pourquoi ? Parce que je viens de là. Et c'est
quartier ?
Le quartier de La Source.
La Source. Moi, j'habite aussi à La Source.
Très bien. ce que je voulais dire, c'est, imaginons, vous réussissez à convaincre les personnes, vraiment à les inciter à voter. Et vient le moment où il faut voter, le choix qu'on a, parfois, c'est, comment dire, c'est pas vraiment voilà, c'est
donc on peut voter
représentatif
blanc.
Représentatif des gens de quartier, par exemple.
Eh.
C'est-à-dire que, quelque part, il y a une relation de confiance qui doit se placer. Est-ce que aujourd'hui on a vraiment un politicien, un homme ou des hommes qui sont des représentants réels des gens des quartiers? Pourquoi appuyer là-dessus, puisque il y a rien qui évolue? C'est l'impression qu'on a en fait dans les quartiers populaires. Et en plus de cela, on a l'impression qu'il y a une distance entre le citoyen français venant des quartiers et le citoyen français ne venant pas de quartier.
Écoutez, d'abord, bon, j'ai beaucoup œuvré pour la politique de la ville. Vous savez, j'ai fait 3 rapports. Hein. Bon, je pourrais expliquer longuement tout ce que j'ai proposé. D'ailleurs, j'ai proposé... vous savez, je n'ai pas proposé, mettons, les zonages. Parce que je trouve que les zonages discriminent. J'ai proposé... Vous savez, prenons un exemple très concret. J'étais maire d'Orléans. Bon. Quand j'étais maire, pendant longtemps, 12 ans, j'ai fait beaucoup de choses avec mes collègues, pas tout seul, et aussi dans l'agglomération. Pourquoi j'ai fait un tramway, à votre avis ? Est-ce qu'un tramway... oui, c'est du concret, ça. 18 kilomètres. Le tramway, il partait d'un principe. D'abord, c'est écologique, plus que toutes les voitures qui sont là avec une seule personne à l'intérieur. D'accord ? Mais j'ai dit, finalement, Orléans est coupé. On est coupé. On a une coupure au 19e siècle parce qu'il y avait 2 gares. Donc ça a fait Fleury, Orléans. Puis au XXe siècle, il y a un maire, Roger Secrétin, qui a fait une 2e ville, Orléans-la-Source, à 12 km de la première. Et là, il y a des habitants venant de 72 pays. Et moi, je dis que c'est une richesse parce que j'habite à la source. Si j'habitais pas à la source, je connais plein de gens à la source. Ce matin, j'étais à la source. J'ai parlé avec des gens. Il y avait, je vais vous dire franchement, j'ai été invité à un débat à la mosquée de la source pour islam et laïcité. Donc il y avait des gens de la source. Donc moi, je ne suis pas un extraterrestre. Hein. Je fais les courses au marché de la source. Bien sûr, souvent, je suis pris. Je ne les fais pas. C'est vrai. Mais je suis pris par des réunions, par des manifestations. Mais j'habite à la source. La semaine dernière, j'ai été à l'Assemblée générale de l'association des habitants de la source. Pourquoi j'ai fait un tramway ? Parce que c'est un trait d'union pour relier le centre-ville et l'hôpital, l'université, les chèques postaux et la source. Est-ce que ça, c'est pour les habitants de la source, est-ce que c'est loin de la réalité ? Ben, je vais vous dire, regardez qui est-ce qu'il y a dans le tramway. On m'avait dit le tramway, ça sera un échec. Aujourd'hui, 95% des habitants de l'agglomération plébiscitent le tramway. À tel point que ceux qui étaient contre, ils ont fait la 2e ligne. Et donc, quand des élus politiques... J'ai été élu par la source, hein. La première fois où j'ai été élu député, j'avais un score à la source très considérable. Et j'ai toujours eu une majorité à la source. Quand j'ai fait le tramway ou la salle Fernand Pélissère, qui est au milieu, il n'y avait pas de salle des fêtes. On a fait la salle. Est-ce qu'on a eu tort de faire ça ? Ben, tous les sourciens vous diront non. Et c'est du concret, vous voyez. Là, je me bats parce que je considère qu'il y a un problème de médecin à la source. Ce n'est pas abstrait. Les gens, ils ont le droit d'être soignés, qu'ils habitent à la source ou ailleurs. Donc je suis d'accord avec vous. Mais je dis aux gens, aux habitants des quartiers que j'aime, j'aime aussi le quartier de l'Argonne, quartier des Blossières, les Chaises, les Salmoneries, tout, j'aime tout, Saint-Fleury-les-Aubrais. Il faut voter. Et il faut voter, bien entendu, il faut des candidats de votre quartier. Il faut des candidats de partout. Et vous savez combien il y a d'élus en France, d'élus locaux ?
Non, je ne sais pas.
Je vais vous dire le chiffre. Il y en a 550 000. Et c'est 550 000 habitants qui sont dans 35 000 conseils municipaux. Vous savez, ils connaissent le terrain, dans les villages, dans les moyennes villes, même dans nos quartiers. Ils connaissent toutes les rues, ils connaissent les gens, ils connaissent les commerces, les écoles, les exploitations agricoles, tout, les entreprises. Si on les remplaçait par des technocrates, ce ne serait pas bien. Donc moi, je dis aux Français la chose suivante. Quelle que soit votre opinion, il faut voter. Alors certains disent, ce qui serait bien, c'est qu'on ait droit au vote blanc. Parce que comme ça, si on n'est pas content, bon, on met un vote blanc. Je dis, pourquoi pas ? J'ai été rapporteur d'un projet de loi, d'une proposition de loi sur le vote blanc. Il faut simplement faire attention à une petite chose. Hein. Si vous considérez que le vote blanc est un suffrage exprimé, quand vous allez élire le président de la République ou le maire... Au bout du 2e tour, dans la plupart des cas, il ne sera pas élu à la majorité. Il sera élu avec une minorité de voix. Hein, si vous avez, mettons, un candidat qui a 40%, un autre qui a 41% et qui a 19% de vote blanc, ben le président, il sera élu avec 40%. Est-ce qu'il aura la même autorité et légitimité ? vous avez entre les mains ce que vos ancêtres n'ont pas eu pendant longtemps. Il n'y avait pas toujours une république en France. Ce que dans le monde, beaucoup n'ont pas eu pendant longtemps parce qu'il y avait des dictatures, des oppressions, etc. Vous avez entre les mains la possibilité de voter, la possibilité de voter pour qui vous voulez. Et si en plus ceux qui sont là ne vous plaisent pas, vous avez aussi la possibilité de vous présenter. Si vous voulez que votre quartier soit représenté, ben présentez-vous.
Alors je crois que c'est ça le problème qui était évoqué par Chadrac. Je ne sais pas si Chadrac a eu sa réponse, parce que donc vous avez répondu
que le
droit de vote était nécessaire. Moi, je vais essayer de me faire son porte-parole. C'était au niveau de la représentation, justement, des quartiers, l'incarnation des quartiers. Quand on regarde l'Assemblée nationale, les hommes politiques ou même le Sénat, quand on regarde...
je sors du politique, mais nous aussi.
Dans les rédactions aussi, on a l'impression, alors d'un point de vue homme-femme, la parité homme-femme n'est pas forcément respectée, les catégories socio-professionnelles ne sont pas forcément respectées, la diversité aussi d'origine géographique qui compose la France, qui a des origines qui viennent aussi bien du reste de l'Europe que de l'Afrique, majoritairement, ne représente pas diversité. Enfin, je ne sais pas, Chadrac,
c'était dans ce sens-là que je voulais en
Et alors, c'est pas le droit de vote qui pose problème, parce que je pense que tout le monde dans les quartiers aussi...
Et puis le droit de vote, ça ne concerne pas que les gens du quartier, en fait. Mais par rapport à ça, en fait, moi, je voulais aussi... peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'engagement politique dans les quartiers. Non seulement les gens ne votent pas, mais ne pensent même pas à participer, à vouloir se présenter ou je ne sais quoi. Mais essayons aussi de savoir pourquoi.
Mais ce n'est pas ce que je vis. Hein.
Votre analyse, en fait.
J'ai fait une liste municipale, j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai fait qui ont gagné au moins deux. Et quand on fait une liste municipale à Orléans, d'ailleurs, ça vaut à peu près pour toutes les municipalités, ce serait aberrant de faire une liste municipale où il n'y aurait pas la proportion pour la source. Moi, si les gens de la source, ils sont sensibles au fait que leur quartier soit représenté au conseil municipal. Si une liste les ignorait, ben, je crois que cette liste perdrait des atouts. Mais de la même façon, c'est normal que les gens de Saint-Marceau, les gens de la Madeleine, les gens des Blossières, de l'Argonne, du centre-ville, soient représentés. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont élues de la source, par exemple, dans différentes municipalités. Mais rien n'empêche vraiment de bien représenter les quartiers dans les listes. Et je crois même que c'est une erreur que de ne pas les représenter dans les listes municipales.
Vous parliez d'échec de la droite républicaine, mais là, je prends l'exemple du quartier de la Source pour souligner que ces mêmes habitants me disaient que Serge Grouard, à l'époque, s'était vraiment inscrit dans sur le terrain et avait réussi finalement à conquérir ces voix que peut-être le PS avait perdu dans ses quartiers populaires orléanais, et notamment de la Source. Là, je veux vraiment rester sur l'ancrage local.
Si vous prenez... ce n'est pas tout à fait vrai. Puisque si... Prenez l'élection... prenons les élections municipales. 89, la liste que je menais était très majoritaire à la Source. Nous arrivons en 95. Elle était encore plus majoritaire. Vous prenez 2001. J'ai perdu de peu de voix. J'avais une campagne contre moi, non au tram, menée justement par Serge Gouard, qui après a fait la deuxième ligne, je rappelle. Donc moi, j'ai croyé au tramway, en particulier pour la source. Et bien que je n'ai pas gagné au niveau de toute la ville, j'étais tout à fait majoritaire à la source. Serge Gouard, donc, au bout de son premier mandat, on a dû avoir une élection en 2008, je crois, ou 2007-2008. Regardez le résultat, j'ai été majoritaire à la source, encore. Donc, c'est plus compliqué que ça, les votes. Et aujourd'hui, vous auriez un vote à la source, la gauche garderait quand même une place importante. Le problème, c'est qu'il y a les abstentions, c'est qu'il y a la montée du Front National. Et puis, donc, il y a beaucoup de raisons. Mais si vous voulez, moi, quand je me promène à la source, quand je suis à la source, j'ai pas l'impression d'être un extraterrestre, très franchement. Alors maintenant, on a connu le désamour. Et c'est vrai que la vie politique, c'est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Et puis alors, Thomas, il y a autre chose encore, qui est le phénomène Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, j'ai parlé avec lui beaucoup. Hein. J'ai même parlé avec lui longuement avant qu'il se présente. Il a demandé à me voir, etc. Et je lui ai dit qu'il y a un point où je n'étais pas d'accord. Donc c'est pourquoi je n'ai pas participé à son mouvement. J'aurais pu l'être. J'aurais pu tout à fait travailler avec lui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, quelle responsabilité j'aurais occupé. Mais j'aurais pu. Et il a dit, je vais faire un mouvement qui va être et de droite et de gauche. Je vais prendre ce qu'il y a de meilleur dans la droite, ce qu'il y a de meilleur dans la gauche, et on va faire la République en marche. Et il est vrai qu'aujourd'hui, une part non négligeable de l'électorat socialiste, comme d'ailleurs de l'électorat de la droite républicaine, aux législatives, c'était tout à fait évident. Pourquoi on n'a pas fait un bon score aux dernières législatives ? Parce qu'une part importante de notre électorat a dit, comme je disais tout à l'heure, il y a un président qui est Macron. Ben, on va l'aider, on va voter pour ses candidats aux législatives. Donc, mais là, après cette année et demie qu'on a vécue, je dis, moi j'aurais aimé, je vous le dis franchement, voter plus le texte présenté par Emmanuel Macron et son gouvernement. J'aurais beaucoup aimé. Malheureusement, il y a beaucoup de textes avec lesquels je ne suis pas en accord. Et je lui dis, et si j'avais l'occasion, j'aurais sans doute l'occasion de le voir, je lui dirais que je trouve que sa politique est déséquilibrée par rapport à son projet de et droite et gauche. Malheureusement, c'est plus à droite qu'à gauche. Les ministres de droite se voient beaucoup en tant que ministres de droite, comme M. Le Maire, Darmanin, Édouard Philippe. Les gens de gauche sont plutôt dans des postes techniques et n'apparaissent pas comme porteurs de la gauche. Et donc il y a un déséquilibre, ce qui fait que la gauche doit se reconstruire et qu'on a un gros problème avec une partie de la gauche qui est Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, qui développe des thèses, en particulier par rapport à l'Europe, auxquelles je ne peux absolument pas adhérer. Parce que moi, je suis rocardien, vous voyez, j'ai beaucoup aimé... mon panthéon politique, c'est quoi ? Jaurès, François Mitterrand, Michel Rocard, Pierre Mendès France. Vous voyez, j'ai été dans deux gouvernements, secrétaire d'État aux collectivités locales, appelé par François Mitterrand, avec qui je parlais beaucoup, notamment de littérature. Bien que je fusse rocardien. Or, vous savez qu'entre Rocard et Mitterrand, ce n'était pas toujours simple. Et c'est peu de le dire. Mais parce que Mitterrand a eu le génie stratégique politique, Michel Rocard, comme Pierre Mendès France, comme Jacques Delors, ont dit la vérité économique qu'on n'a pas tout à fait perçue en 81, ce qui a fait le virage de 83. Et même chose avec François Hollande. Il a fait le CICE, à mon avis, trop tard. Il aurait dû, dès l'arrivée au pouvoir, dire, un, on a un problème de compétitivité pour nos entreprises. C'est dans le monde de cet après-midi, Chevènement dit, ça fait 40 ans qu'on se désindustrialise la France. Il y a un vrai sujet. Et deux, il fallait tout de suite commencer la réforme fiscale. C'est des erreurs de timing. À côté de ça, on a fait d'excellentes choses. Donc vous voyez... Pourquoi le Parti socialiste va mal ? Ça, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui tiennent au phénomène Macron, qui tiennent à l'incompréhension d'une partie de la politique de François Hollande ou d'erreur. Hein. Et quand on est dans cette situation, il ne faut surtout pas baisser les bras. Le projet que je porte dans le cœur, c'est quoi ? C'est une société de liberté, d'initiative, d'entreprise et de justice et de solidarité. Ça... Et on a essayé, et c'était le drame finalement de la gauche au XXe siècle et du Parti communiste. On a essayé de faire gérer l'économie par l'État. Ça a été un échec économique et politique. Il faut une société ouverte, une société de liberté, une société où chacun puisse entreprendre, où tous aient la même chance d'entreprendre, qu'ils habitent dans des quartiers défavorisés ou dans la bourgeoisie, etc. Une société où le mot égalité soit un vrai mot et pas seulement quelque chose d'abstrait. Et ça, il faut que l'État joue son rôle. Il ne faut pas l'ultralibéralisme. Bon, voilà, je dis un projet. Ce projet, je l'ai dans le cœur. Et même si aujourd'hui, on est bas dans les sondages, on va remonter. On peut remonter, il faut remonter. Parce que là, bon, moi, j'en suis à dire, attention, hein, on est mal. Quand je dis on, c'est la France. Pourquoi ? Parce que si Emmanuel Macron ne réussit pas, je ne pense pas qu'il dissoudra l'Assemblée parce qu'il a une majorité. Et ce serait bien irraisonnable, enfin irraisonné, que de s'en priver. Mais s'il ne réussissait pas et que la France se partageait entre un gros morceau de Mme Le Pen, un morceau Mélenchon et un morceau Gilet jaune avec des conceptions parfois un peu... Bon, qui ne prennent pas en compte, qui ne prendraient pas en compte l'ensemble des données, notamment européennes, eh bien, je pense que ce ne serait pas un avenir enviable pour notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, moi, je me voue à reconstruire. Ça ne ferait jamais que la deuxième, troisième fois que je serai dans la reconstruction. Vous savez, la SFIO s'était abîmée dans la guerre d'Algérie avec Guy Mollet. Il y a eu Édouard Depreux, il y a eu Pierre Mendès France, il y a eu Michel Rocard et tant d'autres, Gilles Martinet, pour dire on rompt avec ce parti-là. On crée le Parti Socialiste Unifié. Michel Rocard s'est présenté. Tout le monde a dit il a une gueule sympa, il parle trop vite. On a dû avoir 3% ou 3,5%. Mais de là est né peu à peu un nouveau Parti Socialiste qui peu à peu a reconquis le terrain. Bon, ben voilà. Vous me dites, Thomas, qu'on est mal, ben vous avez bien raison de le dire.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet économique. On va poursuivre avec une question de cet ordre avec Camille.
Bonjour, Camille.
Oui, bonjour. Je suis très contente de vous rencontrer. Je vous avais rencontré une première fois dans les années 90. J'avais 9 ans. Vous étiez venu dans ma classe de CM2 pour nous apporter des dictionnaires.
Oui, donc
je n'étais
pas un extraterrestre. Hein. Je venais dans la CM2. Bon, alors...
Moi, je voulais vous poser une question sur l'amendement sur la rémunération des dirigeants qui avait été porté par Nicole Bricq et que vous avez défendu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de défendre ce texte-là ? Comment se sont passés les échanges au Sénat et qu'est-ce qui a été un peu le destin de cet amendement ?
Écoutez, merci de me poser cette question qui me touche. Qu'est-ce que vous voulez ? Une des choses qui exacerbe quand même... le mécontentement des Français, c'est l'injustice. Enfin, l'histoire Carlos Ghosn, ça, c'est pas possible. Et j'irais même, les dirigeants des hautes autorités administratives, ils n'ont pas besoin de toucher les sommes qui touchent. C'est beaucoup moins que les chefs d'industrie ou des dirigeants de banques qui, même au niveau régional, et je peux vous en parler... ont des salaires quand même très élevés. Voilà. Alors, comment, si vous êtes une maman qui a 2 enfants et que vous êtes, on va changer un peu de secteur, vous êtes, mettons, à Courtenay ou alors vous êtes à Nogent-sur-Vernisson ou vous êtes à Châtillon-Coligny. Non, mais je dis Châtillon-Coligny, Nogent-sur-Vernisson, je veux dire pourquoi. Vous êtes là, vous n'avez pas de voiture. Vous devez suivre un examen médical. Vous devez aller voir un médecin pour quelque chose qui n'est pas seulement le médecin généraliste. Vous allez aller à l'hôpital de Montargis, hein, au Cham, à Milly. Il y a un bus le matin et un autre le soir. Autrement dit, pour une consultation, vous allez passer toute la journée. Parce qu'il n'y a qu'un bus dans un sens le matin, un autre le soir. Et c'est tout. Donc les gens vont vous dire, ben voilà... Moi, je suis là, je gagne un peu plus que le SMIC. Si l'essence augmente, comment je fais ? Je paie beaucoup trop en transport pour aller au boulot. C'est concret, ça. Et les gens qui vivent cette vie-là, où ils ont quand même des difficultés, ils entendent parler des salaires énormes de dirigeants d'entreprises qui ont des actions données gratuitement en plus, des stock options en plus, de l'intéressement en plus et des tas d'avantages. Ce n'est pas juste. Alors Nicole Bricq était une sénatrice socialiste, une grande dame, Malheureusement, elle est décédée dans un accident domestique. Elle est tombée d'un escalier, elle est morte. Et j'avais beaucoup d'amitié et de respect pour elle. Et c'était un de ses chevaux de bataille. Et puisqu'il y avait une loi pacte sur l'économie, eh bien, j'ai proposé à mon groupe, qui a été tout à fait d'accord, j'ai repris à mon compte 5 amendements de Nicole Bric pour réduire les rémunérations des chefs d'entreprise, les rémunérations outrancières, pas les rémunérations raisonnables, et pour demander que le comité d'entreprise statue là-dessus. D'accord ? Mais je vais vous dire, la majorité du Sénat ne les a pas votés. Le rapporteur n'était pas pour. Et le ministre, M. Le Maire, vous pouvez regarder le procès-verbal sur les 5 amendements. Il a répondu défavorable. Il n'a pas dit une phrase de plus. Il n'a pas dit pourquoi. Et là, on voit, le Sénat, je l'aime beaucoup, il a quand même une majorité de droite. Et cette majorité de droite, bah, sur certains sujets comme celui-là, malheureusement, elle n'a pas suivi. Mais moi, j'ai défendu avec le cœur ces amendements. Et je crois que dans cette société, d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement le dit dans l'interview qu'il publie aujourd'hui, mais il a raison, il rappelle qu'entre 81 et 83, on avait pris des mesures pour limiter les rémunérations. Il ne s'agit pas de tout définir par décret, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Il peut y avoir, bien sûr, des écarts de salaire, mais pas du tout dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui. C'est profondément choquant. Donc c'est un combat que j'ai mené et que je continuerai de mener. Et Camille, vous me faites très plaisir en me donnant l'occasion d'en parler ici pour Bondy, Blog, Centre, Val-de-Loire.
On termine avec une dernière question de Hassan Kérim.
Oui, on a beaucoup parlé de l'état du PS, Jean-Pierre Sueur. On a parlé d'Orléans, du quartier de la Source. Les prochaines élections municipales ont lieu l'année prochaine, en 2020. Oui. Le PS n'a pas encore de candidat. Est-ce que vous allez jouer un rôle dans cette élection ? Est-ce que vous souhaitez jouer un rôle dans cette élection ?
Ben, je suis un citoyen, comme vous, Hassan. Vous allez jouer un rôle, forcément. Et je vais vous dire simplement que je souhaite de tout cœur qu'il y ait une alternative, bien sûr, à la politique de M. Olivier Carré. Car il y a des choses qu'on peut soutenir, des choses avec lesquelles nous avons beaucoup de raisons d'être en désaccord. Vous voyez, par exemple, faire un complexe qui s'appelle Comet, où il y aura 10 000 places, juste à côté d'un zénith que j'ai fait où il y a 5 000 places, est-ce qu'on va remplir souvent avec des événements sportifs 10 000 places ? Même avec l'OLB qui serait revenu en tête de la section la plus huppée avec des matchs internationaux, j'en suis pas sûr. Donc, est-ce que vraiment ce projet est bien proportionné ? Je prends cet exemple. Je pourrais en citer quantité d'autres. Donc, je pense qu'il peut y avoir et qu'il doit y avoir une alternative à la politique d'une majorité sortante qui, d'ailleurs, a peut-être fait son temps quand on voit en particulier les contradictions qui la traversent en ce moment, qui sont très importantes. Mais je vais vous dire, moi, ce que je préconise. Je n'ai pas de langue de bois. Je trouve que l'alternative aujourd'hui, elle doit être large et reposer sur des personnes qui peuvent appartenir au Parti socialiste, bien sûr, des sociodémocrates, des progressistes, des écologistes, un certain nombre de personnes même qui, étant à LREM, sont en désaccord profond ou en désaccord avec la position de la municipalité actuelle. Je préférerais qu'il y ait un mouvement qui se crée et qu'il y ait une liste assez large, plurielle. Il faut, attention, hein, qu'il soit progressiste, réformatriste, c'est-à-dire qu'il veuille pour Orléans et pour l'agglomération, pour la métropole, parce que c'est lié, beaucoup d'ambition pour le développement économique, pour l'environnement, mais aussi pour le social, pour l'égalité, pour la justice, et pour que tous les quartiers et toutes leurs places soient bien représentées et que l'on s'occupe. Enfin, j'aime pas le mot qu'on s'occupe, c'est paternaliste, mais que tous les quartiers contribuent au développement municipal et contribuent aussi à la citoyenneté.
Merci, monsieur Sueur, de nous avoir consacré du temps.
Mais j'ai été très content. Alors, je dois vous dire que j'ai parlé de manière totalement spontanée. Peut-être qu'il y a des moments où j'étais un peu excessif ou où je n'ai pas trouvé les bons mots. Mais j'ai préféré, connaissant l'état d'esprit de Bondy, Blog, Centre Val-de-Loire, et puis de nos jeunes journalistes ici présents, et puis de Shadrach, de Enoch, qui a le prénom d'un prophète, et de Camille et de Daniel, j'ai pensé qu'il valait mieux parler cash, comme on ne dit pas en français.
Non.
Enfin, être assez direct.
Oui, bah oui. En plus, on aurait pu revenir sur plein d'autres sujets. Vous avez une actualité très riche, notamment sur votre dernier livre, voilà, sur Victor Hugo.
Je vais demain à Villequier, où est enterrée la fille de Victor Hugo, sur laquelle il a fait ce beau poème, vous savez. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Bien, je vais là-bas pour parler de ce livre sur Victor Hugo. Voilà. Parce que je crois qu'il y a un lien entre la politique et la littérature. Mais si vous voulez...
Alors oui, lequel ?
Eh bien, j'ai remarqué que beaucoup des politiques qui ont marqué étaient finalement aussi des personnes attachées... à la littérature. Victor Hugo fut un grand politique et Jean Jaurès était un grand philosophe, vous voyez. Et François Mitterrand était un remarquable écrivain. Et on pourrait citer beaucoup d'exemples. Et c'est important parce que je n'aime pas la politique quand elle devient technocratique. Est-ce que je veux dire ? J'aime mieux quand il y a ce côté littéraire, humaniste de la littérature, de la politique. Voilà. Mais si vous voulez, je reviendrai pour parler de la littérature, ou politique et littérature.
Avec
plaisir.
Pour faire
une émission avec vous.
Avec plaisir. Allez.
Mais il ne faut pas que j'occupe trop l'antenne, parce qu'on va dire après que je fais de la propagande.
Non, allez, il est fini ce temps-là de la propagande. Enfin, pas en France en tout cas. Merci beaucoup. On envoie le générique. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. Camille... Shadrach, Enoch, Hassan et Thomas. Et vous, monsieur Sueur, bien évidemment. Alors, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on peut suivre aussi vos informations sur le site jpsueur.com ou alors sur votre page Facebook. Vous communiquez beaucoup pour un homme politique. On peut vous suivre un peu comme un GPS.
Oui, mais au début, je ne le faisais pas. Puis je me suis rendu compte que c'était... Vous savez, il y a un discours convenu qui consiste à dire l'Internet, c'est pas bien. Les réseaux sociaux. Alors, il y a n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais comme il y a n'importe quoi, il y a aussi le bon et le meilleur. Et vous savez, je prends un exemple simple. Quand j'étais un jeune député, maintenant, je suis un jeune sénateur. Un jeune sénateur, enfin, qui a déjà un peu d'heure de vol. Mais quand j'étais un jeune député, quand je travaillais sur un projet de loi, il fallait trouver l'article numéro 29-2 du décret 332-4 du 12 juin 1956. Ben, je devais passer une heure, deux heures à la bibliothèque rien que pour trouver un décret, un article de loi, un article réglementaire. Rendez compte ? Aujourd'hui, je tape Légifrance et en quelques minutes, j'obtiens tout. Mais vous rendez compte du progrès, de l'accès à la connaissance ? Autrement dit, Internet, ça peut être aussi... il faut simplement, de même qu'il faut à l'école, apprendre les institutions de la République, apprendre la Constitution, écrire au tableau, voter est un devoir. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Et les choses, il faut les dire. Voter est un devoir, je le dis. Et en même temps, il faut dire comment éviter les méfaits de la toile, de l'Internet, des réseaux sociaux. Et comment utiliser toute la source de connaissances énorme que je peux trouver et que malheureusement nos anciens n'avaient pas. Ils n'avaient pas à disposition une telle capacité de connaissances. D'accord ?
Merci monsieur Sueur. Allez, on envoie le générique.
Sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr
Bondi Bloc Café.